11h midi. Studio B. Studio B.
C'est qui, toi, frère?
Bah, c'est moi, ça.
Ah, vous connaissez pas?
Qu'est-ce que tu fous là?
Bah, j'en sais rien.
C'est pour l'annonce.
C'est vrai que vous cherchez les sparring,
plus que du chômage, plus que du RSA.
Bon, fou, j'en tournerai pas à l'usine.
Je me bouge et je trouve un taf.
Mais t'es sérieux, là, devant maman?
Je suis pas un ennemi de la liberté.
Dis-moi, j'ai le droit de le faire, toi aussi, t'as le droit de le faire.
Il faut que tu t'habilles correctement.
On est pas d'accord, on est pas d'accord.
Non, voilà, on est pas d'accord.
Il est temps de prendre votre envol.
Venez, suivez-moi.
Et le soleil est là, car je l'ai demandé.
Jusqu'à midi, Studio B, le magazine ciné de Beurre FM.
Avec un B comme bande, bonjour et bienvenue dans Studio B. Moi c'est Christophe avec Camille jusqu'à midi. On est là pour vous parler de cinéma. Ça va Camille?
Ça va très bien.
Très bien.
Pour toi? Oui, nous sommes bien entourés, donc ça va très bien.
Oui, c'est vrai qu'on est bien entourés, ça c'est vrai. On va vous dire de qui on est entouré. Allez, voici le programme de cette heure de cinéma. Ma sélection des sorties de la semaine prochaine. Pour commencer, je vous propose de rencontrer des réfugiés en Grèce, d'écrire à votre acteur préféré et de suivre un scénario qui dicte toute votre vie. Et comme on est dimanche, le ciné c'est aussi à la télé. Et c'est Camille qui s'en charge avec le jeu zap pas. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Tu zappes ou tu zappes
pas? On va à l'Est d'Éden ce soir.
À l'Est d'Éden?
Ouais, on va sur Arte qui nous emmène à l'Est d'Éden avec James Dean.
Et donc, voilà. On zappera sur cette chaîne.
Voilà.
Très bien, bah, tu nous dis pourquoi.
Bah oui, je garde le suspense, ah, Christophe.
Évidemment, il faut toujours garder le suspense, c'est quelque chose d'important. À 11h30, ce sera votre rendez-vous actu. Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu et toujours en tête du box-office? Et Camille nous résumera l'actu ciné de la semaine dernière.
Oui, on va parler de Captain Marvel qui rend un dernier hommage à Stan Lee, le créateur qui a disparu l'année dernière. Et aussi une autre disparition qui emporte avec elle notre adolescence, celle de Luc Perry. Je voulais lui rendre un dernier hommage.
Bon, eh bien, tu le feras tout à l'heure à 11h30 dans les news. On vous emmène cette semaine dans un centre de désintoxication, mais pas n'importe lequel, un centre qui n'utilise pas de médicaments. Il y en a deux en France, à Aubervilliers et vers Soissons. Mais celui du film est imaginaire puisque le film est une fiction. La méthode utilisée passe plus par la psychologie. Le film est une fiction, je vous le disais, mais c'est bien de le préciser, tant le ressenti donne une impression de réel. La réalité d'un centre de la dernière chance dont la devise pourrait être solidarité, humanité et partage. Nos vies formidables, c'est le titre du film. Il est à l'affiche, c'est notre film de la semaine et c'est à toi Camille de nous dire qui vient nous en parler.
Oui, elle commence par exercer le métier de psychosociologue tout en réalisant des courts-métrages. Son premier long-métrage Sauf le respect que je vous dois en 2006 est très chaleureusement accueilli par la critique. En 2009, elle réalise le documentaire Ne me libérez pas, je m'en charge sur le célèbre prince de l'évasion Michel Vaujour. Il sera sélectionné à la Berlinale et même nommé pour le César du meilleur documentaire. En 2018, elle réalise donc Nos vies formidables. Fabienne Godet, bonjour.
Bonjour.
Et à côté d'elle, originaire de Marseille, vous avez pu le voir à la télévision dans plusieurs téléfilms et séries, Le Tuteur sur France 2, Mafiosa sur Canal+, ou encore Section de Recherche sur TF1 et Un mari de trop sur TF1 également. Au cinéma, avant Nos vies formidables, il a joué dans la comédie Comme des garçons. Il incarne Jalil, Cédric Maruani, bonjour.
Bonjour
et bienvenue à tous les deux sur Beurre FM. Bon, vous le savez, on a une tradition dans Studio B pour accueillir nos invités. On leur propose de choisir deux questions. Une question que vous avez envie qu'on vous pose et on vous la posera d'ici midi. Et une question vous n'avez pas envie qu'on vous pose, il faut la dire, mais comme on est sympa, comme Camille est sympa, oui. En tout cas, on ne la posera pas. On va commencer par Fabienne, honneur aux femmes. Quelles sont vos deux questions? Celle que vous ne voulez pas qu'on vous pose, celle que vous voulez qu'on vous pose.
Alors, celle que je n'ai pas envie qu'on me pose, c'est pourquoi j'ai fait ce film. C'est-à-dire, quelle est l'origine? Parce que je pense qu'on s'en fout.
Ah, carrément.
Ah oui,
c'est peut-être une question qu'on vous a beaucoup posée aussi.
Oui, et puis je pense que ce qui est important, c'est ce qu'on a envie de dire, plus que l'origine et le pourquoi, tout simplement parce que parfois on ne sait pas des fois pourquoi on fait les choses, vraiment, on peut s'en inventer, mais...
Ok, celle-là on ne vous la posera pas, et celle que vous voulez qu'on vous pose?
Ben, je ne m'en souviens plus en fait.
C'est pas grave, ça ouvre le champ des possibles.
Je ne me souviens plus ce que j'ai dit tout à l'heure.
Bah, Cédric, allez-y et puis alors, ça va peut-être vous revenir.
Moi, la question que je veux pas qu'on me pose, c'est combien de kilos j'ai pris pour interpréter ce personnage.
D'accord.
Ah.
Voilà, je ne dirai pas. Peut-être si on m'interroge beaucoup, je peux le dire, mais là pour l'instant.
Si on insiste beaucoup.
Si, voilà, il faut insister vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et la question que j'ai envie qu'on me pose, c'est pourquoi il faut aller voir ce film.
D'accord. Très bien.
Et bien celle-là, on la notera et on vous la posera.
Et Fabienne, ça ne vous revient pas?
Non, ça ne me revient pas, mais en fait, ça rejoint un peu pourquoi il faut aller voir ce film et quel est vraiment le sujet du film.
Très bien.
C'est bien, noté.
Écoutez, c'est noté. Bienvenue dans le 87e numéro. Vous écoutez Beurre FM. Nous sommes le dimanche 10 mars.
Studio B, les sorties ciné de la semaine.
Et mercredi, on pourra aller voir Meltem.
Ouais, Meltem, une histoire de solidarité et d'amitié dans les beaux paysages d'une île grecque. Elena y a amené ses deux potes Nassim et Sekou pour les vacances. Ils vont rencontrer Elias, un jeune Syrien réfugié sur l'île. On écoute la bande-annonce.
I am Sekou. She's Elena and she's Bolos.
Bolos, hi.
Je rêve quoi, ça va être ça les vacances?
L'ambiance est moisie, mais là-bas, c'est une dingue de vous faire.
Welcome to Varal.
On va ensemble.
Ça, c'est l'hospitalité grecque, frère. Thanks.
Putain, t'as la même tête que quand t'étais petite. C'est ta mère à côté?
Faut cool que vous soyez là.
Moi, je crois que je vais pas faire le ramadan aujourd'hui. Je rattraperai demain.
Ah, donc toi, tu crois que le ramadan, c'est comme la pilule du lendemain, en fait?
Elias.
Enchanté.
Je viens de Syrie.
Je suis arrivé il y a quelques jours.
Faut qu'on l'aide à rejoindre sa mère.
T'en ferais autant si tu le kiffais pas?
Putain, tu comprends vraiment rien. Elias.
Laisse-moi toi. Qui ça se rend paumé sans racine là? Tu sais même pas où tu vas. T'es là, tu crois que tu vas sauver le monde?
Cours, Elias!
Elena!
Welcome, refugees.
T'as vu? Ils nous croient pour des clandos à cause de ta tête de blédard là.
Tu veux parler de blédard, Kirikou?
Meltem, ça sort ce mercredi, on l'a vu, c'est un beau film, moi je vous le conseille. On en parlera avec toute l'équipe du film la semaine prochaine dans Studio Bug, avec notamment Rabah Aïdoufella, qui était déjà venu en juin dernier nous parler du film Les Indignés.
Ma vie avec John F. Donovan.
Yes, c'est le nouveau Xavier Dolan, c'est son premier film en anglais d'ailleurs. Il raconte l'histoire d'un petit garçon rejeté par ses copains de l'école qui décide d'écrire à un acteur dont il est fan. Contre toute attente, cet acteur va lui répondre et ils vont s'échanger comme ça des dizaines de lettres. 10 ans après la mort de l'acteur, le petit garçon, qui est devenu grand, rencontre une journaliste pour lui raconter cette relation épistolaire, cette relation écrite par des lettres. Comme souvent, Xavier Dolan s'inspire de sa vie dans ce scénario. Lui-même, lors de l'avant-première, il a lu une lettre qu'il avait écrite à l'âge de 8 ans à son idole, Leonardo DiCaprio. Voilà.
Oui, ça, il en a parlé beaucoup. Hein. Il l'a lu beaucoup, cette lettre.
Bah oui, oui, bah voilà.
Non, mais oui, très bien. Bah oui, bah... Oui, c'est normal que ça soit son idole.
Parce qu'il y a d'autres gens que toi qui écrivent.
Bah non, je comprends complètement.
Alors j'aime les films de Dolan et j'ai donc très envie d'aller voir ce film où on retrouve notamment Suzanne Sarandon et Nathalie Portman, mais pas Jessica Chastain. Elle était au casting initial pourtant, elle a même tourné toutes ses scènes, mais son personnage a été coupé au montage pour gagner du temps.
Convoi exceptionnel.
Le nouveau film de Bertrand Blier avec Depardieu et Clavier qui nous montre qu'il n'est pas qu'un acteur comique. Le film part d'une idée absurde. Chaque personnage a sa vie réelle dictée par un scénario.
On a rendez-vous.
Mais pourquoi on a rendez-vous avec lui?
C'est pour le tuer.
Mais pourquoi il va falloir?
Mais parce que c'est écrit dans le scénario!
C'est complètement con, cette histoire de tuer un mec. Nous venons pour vous tuer.
Moi, dans mon scénario, il y a écrit « Sors un flingue ». Comment vous faites maintenant?
Alors tout est écrit, en vrai, ils écrivent tout ce qu'ils doivent faire est écrit. Ils connaissent tous toute leur vie, mais aussi leur mort. Enfin, ils connaissent tous toute leur vie, non pas tous en fait.
Je n'ai eu aucune page.
Mais vous faites comment alors?
J'improvise.
Ils avancent donc dans cette ville où tout se passe, tout est prévu comme dans un film.
Qu'est-ce que c'est que cette musique?
Quand une femme disparaît dans la nuit, il y a toujours une musique.
Triste, la musique.
Oui, mais quand elle revient, la musique est joyeuse.
Voilà, aux côtés de Depardieu et Clavier, on retrouve plein de grands acteurs dans des petits rôles. Alex Lutz, Blue Lanners, Guy Marchand ou encore Alexandra Lamy, par exemple. Encore un film qui me donne envie, qu'on voit exceptionnel.
Oui, ça a l'air très original.
Original, alors ça, c'est... Oui. Après, voilà, c'est peut-être pas accessible...
Bah, faut voir ce que ça donne, voilà. Parce que ça peut être
l'idée
aussi
peut
un
être
peu
bien,
casse-gueule.
Mais c'est ça, à voir, qu'on voit exceptionnel, ça sort mercredi prochain.
À voir aussi cette semaine.
Rebelle, avec Cécile de France, Yolande Moreau et Audrey Lamy, en ouvrière d'une conserverie qui tue par accident leur patron harceleur et se retrouve embarqué dans un trafic qu'il gérait. Dragon Ball Super Broly pour les fans nostalgiques de Dragon Ball, ceux qui regardaient ça au Club Dorothée. Il peut y avoir également Hilo, une odyssée en Laponie avec de très belles images du Grand Nord. On y suit la première année de vie, pleine de dangers et d'aventures d'un petit renne sauvage. Et puis enfin, Quand je veux, si je veux, un documentaire sur l'IVG, ce droit à l'avortement malheureusement de plus en plus remis en cause. Voilà pour les sorties de ce mercredi. Camille, qu'est-ce qu'on regarde ce soir à la télé, ce dimanche soir? On va sur Arte.
Exactement, on va sur Arte à 20h55. Exactement. À l'Est d'Éden, donc qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le film qui a révélé James Dean, qui n'avait jusqu'ici que des petits rôles. Et c'est lors d'une représentation de L'Immoraliste que le réalisateur Elia Kazan, donc le réalisateur de À l'Est d'Éden, tombe sous le charme de Jimmy Dean. Il dira: j'ai choisi Jimmy parce qu'il était calme, il n'y avait aucun doute, personne ne pourrait le jouer mieux que lui. Paul Newman avait même passé les essais et a été recalé, écrasé par la sensibilité et le jeu animal de James Dean. James Dean qui, oui, crève l'écran. Il incarne donc Cal Trask, un jeune homme dont la vie est gangrénée par un terrible secret familial. Sa mère, qu'il croyait morte, les a en fait abandonnés, lui et son frère jumeau, à la naissance. Et un jour, il apprend qu'elle vit juste à côté et tient une maison close. Donc c'est un personnage en pleine remise en question qu'incarne James Dean. Il est partagé entre cette rage du mensonge qui lui a été infligé et la peur de ne jamais être aimé ni par son père ni par sa mère. L'histoire du personnage recoupe celle de l'acteur qui a été élevé dans une ferme sans mère. Et c'est peut-être pour ça qu'il est si juste et si bouleversant. James Dean marque le film de son empreinte et on retient vraiment cette scène d'ouverture. Le visage poupin, il est assis sur le bord du trottoir dans la rue ensoleillée, bruissante de mouvements. Il est dépassé par une ombre dont les talons claquent, il tourne la tête, se déplie, puis la suit les mains dans les poches. Et voilà, bim, ça y est, il nous a emporté avec lui. Et suivra bien sûr donc l'immortel La Fureur de Vivre la même année, en 1955, qui est aussi l'année de sa disparition. Il laissera un film posthume géant qui sortira en 56. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller de regarder À l'Est d'Éden ce soir.
À 20h55
sur Arte,
le canal 7 de la TNT.
Studio B, l'interview.
On en arrive à notre film de la semaine, Nos Vies Formidables. Le film est sorti, il est à l'affiche, hein, il est à l'affiche depuis mercredi. Vous pouvez, dès la fin de l'émission, comme ça, aller le voir cet après-midi. Nos deux invités, Fabienne Godet, la réalisatrice, et Cédric Marwani, qui a un rôle dans le film, qui joue dans le film. On va peut-être commencer par la question la plus simple. De quoi parle votre film, Fabienne Godet?
Le film, il parle de solidarité, de fraternité, d'entraide, de ce besoin qu'on a tous à un moment donné de soit proposer, soit de prendre une main qui nous est tendue et qui est un reflet aujourd'hui par rapport aux gens qui le voient de tout ce dont on a tous besoin qui est de, justement de parler, de s'entraider, de discuter et de pas rester en fait complètement isolé. En fait, vraiment, le cœur du sujet, il est là.
Alors, ma première question est la question que vous ne vouliez pas qu'on vous pose, donc je ne vais pas la poser. C'était pourquoi avoir eu envie de faire ce film sur ce thème. Donc, la toile de fond est quand même... ils sont dans une cure de désintoxication. Et il y a vraiment un effet de réel. Vous avez fait un documentaire. Est-ce que c'était important pour vous d'assurer une vraisemblance dans votre film?
Oui, parce que... moi-même, je suis pas dépendante, donc j'avais besoin de m'appuyer sur des vrais témoignages, des vrais gens. C'est un sujet sur lequel on peut pas raconter n'importe quoi. Et le fait d'avoir été à la fois aux Narcotiques Anonymes et en immersion dans cette communauté d'Aubervilliers m'a permis en fait de passer beaucoup de temps avec ces gens-là, de les interviewer, de savoir quel avait été leur parcours, là où ils en étaient aujourd'hui. Et surtout, cette immersion m'a permis d'observer en fait chaque détail, comment ça fonctionnait, les principes de la communauté, les groupes de thérapie. Et je me suis rendu compte en fait en côtoyant ces gens-là que c'était des gens comme vous et moi, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont peut-être une sensibilité, mais je dirais même pas ça, qui sont peut-être un tout petit peu plus sensibles que les autres. Et qui ont mis entre eux et la réalité, voilà, certains, je dirais, pare-feu.
Oui, qui ont un peu plus de mal à vivre que voilà. Les autres.
Mais très souvent, quand j'ai discuté avec eux, je me disais, mais oui, moi aussi j'ai peur, moi aussi j'ai le complexe d'imposture, moi aussi je... Et alors ils me disaient, oui, tu as la même chose, mais un tout petit peu moins fort. C'est-à-dire que nous, c'est multiplié par 10 000, et toi, ça ne t'empêche pas en fait d'avancer. Mais je me retrouvais sur des thèmes vraiment communs, quoi. C'est-à-dire que j'ai eu le sentiment qu'on était au cœur de l'humanité. Et moi, ce qui m'a vraiment bouleversée, en fait, notamment aux Narcotiques Anonymes, c'est cette volonté, en fait, d'honnêteté intellectuelle et affective. Et ça, c'est quelque chose, par contre, qu'on ne retrouve pas dans la société civile.
Est-ce qu'à un moment donné, en passant du temps avec eux, vous avez pensé au documentaire? Pourquoi vous êtes tourné vers la fiction?
Parce que ça me laisse de la liberté, parce que ça me... Quand j'ai interviewé les gens, je leur ai garanti, Narcotiques Anonymes, je leur ai garanti l'anonymat. Donc ça me... le médiateur, en fait, de faire des interviews et ensuite de confier ça à des comédiens, ça permet de justement de, à la fois d'être au cœur du sujet et en même temps sans jamais être dans un voyeurisme. Si on met, si à un moment donné, tu mets une caméra dans un groupe de thérapie, les gens ne peuvent absolument pas être authentiques. Là où les acteurs, je dirais, prennent les personnages à bras-le-corps et peuvent être vraiment, enfin jouer en tout cas, moi, ce que j'avais envie qu'ils se jouent et que j'avais pu observer.
Et même si c'est un film, on va voir que donc c'est une fiction, on va voir que c'est quand même très réaliste. Et c'est d'où la question de Camille, c'est qu'on est presque proche du documentaire. On a presque l'impression que parfois c'est du documentaire. Nos vies formidables, le film est à l'affiche. Fabienne Godet, Cédric Marouani, vous êtes nos invités jusqu'à midi dans Studio B. Vous nous avez ramené des souvenirs du tournage. On va les mettre en ligne sur la page Facebook de Studio B. On a plein de questions à vous poser. Il y a les news, il y a le box-office.
Non mais
quel programme. Je ne sais pas si on aura le temps de se jusqu'à midi. Allez, restez avec nous. À tout de suite sur Beurre FM.
Jusqu'à midi, Studio B, le magazine ciné de Beurre FM. Beurre FM, 11h midi, Studio B avec Christophe et Camille.
Comme chaque dimanche, c'est votre magazine ciné sur Beurre FM, Studio B. On est ensemble jusqu'à midi. Notre film de la semaine, c'est Nos vies formidables, film de Fabienne Godet avec notamment Cédric Marouani à l'intérieur. Le film est à l'affiche, vous pouvez le voir. On vous conseille d'aller le voir et on en parle avec donc nos deux invités jusqu'à midi. On a plein de questions à leur poser juste après la bande-annonce.
Le téléphone, je le prends aussi. Tu pourras le récupérer dans 10 jours.
Tu commences à quelle heure?
On réveille. Alcool, médoc, coke, tous les jours.
Margot, essaie de nous dire ce qui se passe là, dans ton ventre.
Comment ça va?
C'est une question à con. Moi, il m'a fallu 3 semaines pour me sentir bien.
Reste juste pour aujourd'hui, demain tu verras.
Ici, c'est un jour à la fois. Tu dois surtout pas penser au lendemain.
Avec tout ce qu'on s'est mis dans la gueule, dans les narines, dans le foie, dans tout ça, et ben on arrive à arrêter, tu vois. Et rien que pour ça, t'es balèze de ouf. T'es plus fort que les autres.
Tu as appelé ta famille?
Non.
Ce secret, il est en train de t'empoisonner, Margot.
Je l'ai jamais raconté à personne.
Pour moi, la honte, c'est quand t'as fait tellement de mal aux gens que t'aimes que tu peux même plus te regarder dans une glace.
Personne te juge ici, Margot. Faut que je fasse attention, je vais devenir dépendante.
Nos vies formidables, donc, qui est sorti mercredi, que vous pouvez aller voir dès aujourd'hui. Fabienne Godet, vous parliez tout à l'heure de votre immersion dans des réunions narcotiques anonymes, dans des centres. Cédric Marouani, justement, au niveau des acteurs, est-ce que vous avez passé du temps dans des centres? Est-ce que vous avez rencontré des narcotiques anonymes?
Alors, pas du tout. J'ai pas rencontré des. Je suis pas allé dans un centre, tout ça. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que je me suis documenté. J'ai lu un livre de Christophe Tison que Fabienne avait recommandé, qui était très très intéressant. J'ai vu un documentaire aussi. Et ensuite, j'ai rencontré la sœur d'un héroïnomane.
Oui, quand même.
Ouais. Et ouais, parce que j'avais besoin de lui poser des questions. C'était. Je me suis dit voilà, j'ai envie de. Je connaissais pas du tout ce milieu. J'étais pas du tout. Et je me suis dit ok, j'ai envie de rencontrer des personnes et. Il s'est trouvé qu'elle est arrivée sur ma route et je lui ai posé plein de questions comme un enfant qui pose des questions sur son frère et elle aussi elle était un peu dans ce cas-là, enfin elle avait été, et donc du coup elle m'a donné plein de renseignements et ça m'a beaucoup servi. Ouais.
Comment s'est passé le tournage? Parce que sur le tournage, on a une impression de presque d'improvisation, surtout dans les scènes de réunion où ils sont tous en train d'échanger sur leur expérience. On a l'impression que les acteurs improvisent, lancent des petites phrases qui n'étaient pas forcément prévues. Est-ce qu'il y avait ça? Est-ce qu'il y avait cette liberté d'improvisation?
Oui, il y avait cette totale liberté. Chaque acteur avait une fiche personnage et avait notamment un petit livret, une espèce de petite bible sur le fonctionnement du centre. Donc, chaque acteur savait, par exemple, puisqu'il y a 14 résidents, il y a 23 personnages, avec qui il s'entend, avec qui il ne s'entend pas, avec qui il va être en conflit. Donc, ils avaient comme ça une ligne. Et sur les groupes de thérapie, par exemple, je leur donnais des morceaux d'entretien réels que j'avais fait. Donc, dans le cas, par exemple, de Cédric, le personnage de Jalil, dans le premier groupe de thérapie, c'est que sa parole va tourner autour de ça. Mais une fois que j'ai donné ça, une fois que j'ai donné les indications et que chaque comédien sait dans quel ordre il va parler, les autres comédiens qui sont autour ont totale liberté de pouvoir intervenir, de confronter, d'identifier, de s'énerver, de rire. Et puis des fois, je vais les chercher. Donc, c'est un cadre qui est à la fois très strict, très cadré. Et dans ce cadre-là, les comédiens peuvent totalement investir. Parce que justement, il y a quelque chose qui les contient, en fait. Donc, ils savent, ils ne vont pas dans n'importe quelle direction, en fait.
Oui, ils ont un cadre et après, c'est eux qui, qui jouent dedans. Ouais. Vous avez parlé d'une expérience théâtrale. C'était un peu ça, le tournage ? Est-ce que ça avait des dimensions théâtrales ?
Bah, on était une troupe. Oui. Enfin, sincèrement, du début, c'est-à-dire que même le casting, c'était pas vraiment un casting, c'était vraiment une journée de travail. On était une dizaine. Et on a fait plein d'impro, dirigé par Fabienne, Julie. C'était incroyable parce que donc Julie qui joue le rôle de Margot, parce qu'elle vient du théâtre principalement. Et du coup, ils avaient mis en place une espèce de journée où on travaillait. Donc c'est incroyable parce que quand on est comédien, c'est un rêve en fait. C'est-à-dire que nous, on va à un casting, ça dure 10-15 minutes, merci, au revoir, deux prises. Et puis alors que là, il y avait une journée de travail, on a mangé ensemble. Donc déjà, rien que là, c'était déjà l'esprit de troupe. Et puis après, quand on a commencé à... On est parti une semaine avant le tournage.
D'accord, oui, vous êtes vu avant le tournage.
Et là, on a travaillé. On a travaillé, on a fait connaissance, on dormait dans des dortoirs, on était ensemble. Et on était sur les lieux du tournage, et ça crée une alchimie de dingue, en fait.
On la ressent à l'écran. Ouais. C'est que vous pensez que c'était indispensable, ça, pour créer ce groupe qu'on voit à l'écran ? De les faire se rencontrer avant, qu'ils passent du temps ensemble avant.
Oui, c'est important en tout cas que la dynamique de groupe, on puisse en tout cas tenter de la mettre en place. Franchement, au début, je ne m'attendais pas à ça. C'est-à-dire que je ne pensais pas que dès les séances de casting, tous les comédiens disent « mais déjà on avait envie d'y être ». C'est-à-dire qu'on aurait envie déjà qu'il y ait la caméra qui soit là. Et pendant cette résidence, qui est une résidence, sur aucun tournage ça ne se fait. En général, les comédiens arrivent, ils ne se connaissent pas. Et puis on leur demande de jouer des scènes. Là, on a fonctionné effectivement, comme dit Cédric, une troupe de théâtre, une résidence, et on jouait au volet. Je leur ai proposé d'écrire une chanson. Ouais. Je ne pensais pas du tout que cette chanson, par exemple, serait dans le film.
D'accord.
Non, c'était, pour moi, c'était on va faire de la musique ensemble, on va apprendre à se connaître. Mm. Et puis tout de suite, certains ont pris de la guitare, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de musiciens. Mourad Musset, qui est le chanteur de La rue qui est à nous, a pris sa guitare. Puis ils ont commencé à créer une chanson autour de solidarité. Je me suis dit, mais c'est vachement bien quand même ce qu'ils font. Et puis, on n'avait pas d'argent. Donc, je me suis dit, bon, je ne veux pas mettre du Johnny Hallyday, donc...
Oui.
Trop cher, Johnny.
La chanson... Non, mais la chanson qu'ils ont fait...
Elle est très jolie, en plus, cette chanson.
On ne voit dans le film que trois paragraphes, mais chaque comédien, en fait, a écrit son paragraphe et chantait. Et ça, on mettra dans le making-of. Le DVD va sortir, mais... et c'est vrai que en fait on aurait quasiment pu filmer cette résidence. Il y a une alchimie. Je crois que le sujet en fait, qui justement est vraiment sur ce truc d'humanité, a déteint sur nous tous. Ouais. Et comme on a vécu comme si on était en communauté, quasiment on aurait pu avoir des caméras partout en télé-réalité, tout était bon quoi.
C'est la première fois que vous utilisez ce processus de création.
Oui.
Et alors, vous réutiliserez ?
Oui.
Ou c'était spécifiquement pour le besoin de ce film-là
Ce film-là, parce que c'était une troupe. Aussi parce que j'ai fait des films de manière plus classique. J'ai aimé faire ces films. Mais la technique, souvent, prend le pas, en fait, sur le travail qu'on peut faire avec les comédiens. Et quand même, moi, ce que j'aime, c'est les comédiens. C'est m'amuser avec eux.
C'est important, la technique.
Tenter des choses. Oui, mais elle doit être, pour moi, au service du travail de comédien et pas l'inverse. Et très souvent... dans une place sur la Terre, on est avec une équipe de 50 personnes. Ça veut dire que dès qu'on commence à dire « je vais faire ce plan-là », ça prend des plombes. Et les comédiens, l'énergie, c'est quelque chose qui se perd très très vite. Et donc, il faut pouvoir surfer sur l'énergie des comédiens, surtout sur du collectif. Et là, on était 9, donc 2 à l'image. Ça veut dire que parfois, je disais « waouh, il fait beau, allez hop, tous dehors, on sort. » Ou « on rentre parce qu'il pleut ». C'était cette énergie-là et il faut une équipe qui soit super souple. Il faut des techniciens. Je dis des techniciens, mais en fait, pour moi, l'équipe technique, c'est une équipe artistique. Je ne comprends pas le mot technicien. Non, mais c'est vrai, la personne qui fait la lumière ou le son, c'est un vrai travail d'artiste. Y compris tous ceux qu'on ne voit pas, comme la monteuse son, qui a fait un énorme travail de son qu'on entend dans les salles de cinéma. Et ça, c'est voilà, tous les gens, pour moi, ont fait un travail artistique.
Si le film est aussi formidable, c'est pour grâce aux comédiens aussi, qui voilà, comme vous le dites, sont, enfin, on sent vraiment cette unité, cette solidarité entre eux. Ils sont tous justes. Ils sont combien 20 ?
Il y a 23 comédiens 23. Au total.
Et enfin, il y en a pas un qui n'est pas juste. Mmh. Comment vous les avez choisis ? Parce que le film repose sur eux, donc c'était extrêmement important.
Je les ai choisis de manière intuitive, comme je fonctionne tout le temps. À la fois, donc, certains, je les connaissais comme comédiens, mais d'autres, comme Cédric, je ne l'avais jamais vu. Quand je rencontre Cédric, c'est par hasard, je ne vais pas donner forcément toutes les circonstances, mais je rencontre Cédric, je suis avec mon assistante, Anna de Palma, et je rentre, et sur le chemin du métro... Avec Anna, on se regarde, puis on dit, mais qu'est-ce que tu penses de Cédric ? Il serait bien quand même dans ce rôle-là. C'est-à-dire que, de manière inconsciente, j'avais en fait en tête les personnages. Quand je vois la photo de Véronique Dossetto, à qui je confie le rôle de Sonia, j'ai juste une photo. Et je dis à la personne qui me présente cette photo, c'est elle. Quand je rencontre Cédric, c'est lui. J'ai pas déterminé, mais je sais que c'est eux. Et je suis incapable de vous dire de manière rationnelle. Après, bon... Si Cédric et Véronique avaient été mauvais, archi mauvais,
oui.
Ça aurait été compliqué. Mais il n'y a pas de raison. Je crois que le regard d'un metteur en scène sur un comédien conditionne énormément la manière et la manière dont ce comédien va jouer. Et il y avait ça c'est vraiment important, une confiance, pas seulement des comédiens vis-à-vis de moi, mais il y avait une confiance, une générosité des comédiens entre eux, ce qui n'est pas courant sur un plateau de cinéma.
Ah.
Fabienne Godet, votre film Nos vies formidables est à l'affiche. Cédric Marmoni, vous êtes toujours avec nous jusqu'à midi. Vous revenez après les news.
Studio B, l'actu ciné.
Enfin, vous revenez, non, vous restez là. Hein. Vous pouvez évidemment intervenir à n'importe quel moment si vous voulez réagir sur ces news. Il n'y a pas de souci. Les news, ça commence par le box-office ici. Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu ? Reste en tête du box-office pour la 5e semaine consécutive. Un peu plus de 500 000 spectateurs supplémentaires pour un total, pour l'instant, de 5 850 000 places vendues. Ensuite, ce sont les films des vacances scolaires, Dragon 3, Ralph 2.0 et Alita Battle Angel, de la 2e à la 4e place, avec 415, 390 000 et 360 000 entrées respectivement. Les nouveautés se retrouvent un peu plus loin. Le thriller Escape Game est 6e avec 300 000 billets vendus, suivi de la comédie Jusqu'ici tout va bien et c'est 280 000 entrées. C'est pas des scores extraordinaires, mais au vu de la concurrence, c'est pas si mal que ça. Et c'est un petit échec pour Sang Froid par contre avec Liam Neeson, seulement 10e avec 185 000 places vendues. Aux États-Unis rapidement, le Dragon 3 reste en tête du box-office avec 30 millions de dollars supplémentaires engrangés, talonné par une comédie dont la sortie n'est pas prévue en France, A Medea Family Funeral, 27 millions de dollars de recettes, et Alita Battle Angel est toujours sur le podium avec 7 millions de dollars supplémentaires rapportés. On reste aux États-Unis avec Captain Marvel qui rend hommage une dernière fois à Stan Lee.
Oui, Captain Marvel qui est sorti mercredi. Donc c'est le premier Marvel à sortir depuis la mort du papa des Marvel. Il était un grand habitué des caméos. On pouvait l'apercevoir dans toutes les adaptations de ses œuvres. Il a été emporté en novembre dernier, mais il avait eu le temps de faire un petit coucou à Captain Marvel. On peut le voir dès le début de l'intrigue faire un grand sourire à Brie Larson, l'héroïne du film. Mais l'hommage se fait vraiment dès l'apparition du logo du studio. Les lettres sont composées d'images en fait de Stan Lee sur les tournages ou sur les tapis rouges, avec un best-of de ses apparitions. Ensuite, un au revoir sobre et élégant.
À voir donc dans Captain Marvel. Luc Perry nous a quittés.
Ah oui, je tenais quand même à rendre hommage à Luc Perry qui nous a quittés à l'âge de 52 ans des suites d'un AVC. Parce que Luc Perry qui s'en va, c'est un bout de notre adolescence qui disparaît avec lui. S'il restera aux yeux des trentenaires et quarantenaires Dylan Michael, l'enfant rebelle de Beverly Hills, il avait su parler à la nouvelle génération puisqu'il incarnait Fred Andrews, le père d'Archie dans Riverdale. Il avait aussi joué dans Buffy, tueuse de vampires, pas la série, le film de Joss Whedon qui avait donné l'idée de la série après au réalisateur. On le verra cette année, le 14 août, dans le prochain Tarantino Once Upon a Time, aux côtés de Leonardo DiCaprio, bien sûr. L'occasion de lui faire un dernier au revoir.
Bon, forcément, ce film-là, on ira le voir.
Hein. Ah bah ça, c'est sûr. Moi, le 14 août, vous savez où me trouver.
Bohemian Rhapsody, censuré en Chine.
Et bah oui, le film oscarisé sortira bien en Chine, donc mi-mars, mais avec des scènes en moins. Et ce sont les plans les plus explicites montrant les relations homosexuelles entre Freddie Mercury et des hommes, notamment même des scènes de baisers. Hein.
Bon, enfin, il n'y a rien de non plus extraordinairement chaud dans ce film.
Maintenant, il y a aussi des scènes évoquant son addiction à de multiples drogues qui seront coupées. Et donc, concernant les scènes homosexuelles, il faut savoir que la censure chinoise a toujours été très dure En ce qui concerne l'homosexualité, par exemple, le secret de Brokeback Mountain n'est jamais sorti là-bas.
Oui, enfin, moi je veux bien, mais Freddie Mercury, sans l'homosexualité, sans la drogue.
Il reste
la musique. Il reste la musique quand même, faut pas oublier ça, mais c'est quand même pas important du personnage. Trois infos, bref, pour terminer.
Le Big Boss de Warner confirme que des suites de Matrix et Mad Max sont en projet. La sortie de Sherlock Holmes 3 est repoussée d'un an. Il devait sortir pour Noël 2020 et est désormais prévu pour le 21 décembre 2021. Voilà, si vous êtes fan, bah tant pis.
Faudra attendre.
Et selon les créateurs de Game of Thrones, certains fans vont détester la fin.
Mais quelle horreur. Quel suspense.
Bah oui,
ça donne encore plus envie de voir la fin. Bon bah faudra pas sauter, ça sent bientôt hein.
En avril,
oui, voilà.
Eh oui.
Bon, bah vivement avril, alors restez avec nous, on parle de cinéma, nous, on parle du film Nos Vies Formidables. Film qui est à l'affiche avec Cédric Maroni dans le casting, avec plein d'autres personnes dans le casting aussi. Film réalisé par Fabienne Godet. Ce sont nos deux invités, Fabienne Godet, Cédric Maroni. On reparle de votre film dans quelques secondes. Vous nous avez amené aussi un souvenir du tournage. Ça y est, le souvenir est en ligne sur la page Facebook de Studio B. Et puis, on allait chercher des critiques du film. On vous permettra de répondre à ces critiques. Voilà le programme pour la dernière partie de Studio B, juste après la pause. À tout de suite.
Jusqu'à midi, Studio B, le magazine ciné de Beurre FM. Beurre FM, 11h midi, Studio B avec Christophe et Camille.
Bon week-end, merci d'avoir choisi Beurre FM. On parle de cinéma tous les dimanches entre 11h et midi. C'est Studio B, le magazine ciné de Beurre FM. Et notre film de la semaine, c'est Nos Vies Formidables avec nos deux invités, Fabienne Godet, la réalisatrice, et Cédric Maroni.
Studio B, la revue de presse.
La revue de presse, c'est l'occasion pour vous de répondre aux critiques qui sont parues dans la presse. J'en ai sélectionné trois. On va commencer par celle de avoiralire.com où Laurent Cambon écrit « Un film humaniste et généreux qui échappe avec brio au risque du pathos grâce à des comédiens attachants entièrement engagés dans ce formidable récit de rédemption. » Le risque du pathos, c'est quelque chose dans lequel vous aviez peur de tomber ?
Pas du tout, parce que quand je suis allée en immersion, j'ai vu en fait comment ça se passait. Et en fait, ce sont des lieux très vivants. On est en famille, hein, c'est une vie de famille, c'est-à-dire qu'il y a autant des crises de fou rire, des blagues, des gens qui mettent le couvert. C'est très très vivant, la communauté d'Aubervilliers.
Donc, mais c'est triste quand même.
Non, mais c'est ça qui est... Moi, en fait, quand j'y suis allée au début, je me suis dit, waouh, peut-être que... Et en fait, non. C'est-à-dire que les gens en fait, qui sont ici sont... effectivement, ont choisi l'abstinence, mais... c'est très joyeux. Moi, j'étais très étonnée, par exemple, des crises de fou rire qu'il y a dans les groupes de thérapie. Au début, et on m'a dit non, mais c'est normal, c'est comme ça. Enfin, on va pas non plus. Enfin, je crois que ce besoin de rire, de faire la fête, comme on voit dans le film, tout ça, c'est vrai. Enfin, je veux dire, j'ai vraiment rien inventé. Et c'est un lieu qui est très vivant, avec aussi effectivement des moments où ça pleure, où ça s'engueule. C'est pour ça que je compare souvent ça à une vie de famille. Mais c'est une vie de famille où on se parle.
Et ça qui est important.
Ouais.
Bon, alors que vous entendez peut-être les voisins essayer de rentrer dans le studio par la porte, par la fenêtre, je sais pas par où.
Ils rêvent de nous rencontrer.
C'est ça. On va leur dire de faire le tour, ça. Plus, ça bricole dans l'immeuble. Ce dimanche matin. Allez, une autre critique, celle qui est parue dans Première, avec peut-être un petit bémol, celle de Thierry Chaise, qui écrit « Grâce à son regard ni trop distant, ni trop purement empathique, elle arrive à faire exister à l'écran ses nombreux personnages sans verser dans un côté catalogue. Une tension permanente sous-tend son récit, auquel il manque juste la part de romanesque qui a su insuffler Cédric Kahn à La Prière, qui était sur un sujet proche. » Cette part de romanesque que Thierry Chaise indique qui manque peut-être à votre film, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est pas le risque, quand on veut faire quelque chose de très réaliste, qui peut s'approcher d'un documentaire, de perdre le côté romanesque?
J'avais pas envie de faire quelque chose de romanesque. J'ai pas vu La Prière de Cédric Kahn. Donc c'est vrai que j'aurais du mal à comparer nos deux films. Mais j'avais pas envie d'aller vers justement quelque chose de romanesque sur un sujet comme ça. Je trouve que c'est... je cherche l'adjectif, mais il y a quelque chose d'indécent à vouloir faire du romanesque. Donc le film, pour moi, est plein de vie. Et c'est cette vie-là que j'ai eu envie de restituer.
Dans Télérama, enfin, Fabienne Godet écrit « Tous les comédiens sont formidables ». Ah ben voilà, ça c'est pour vous notamment, Cédric Maroni. Mais Julie Moulier, dans le rôle de Margot, elle a d'ailleurs également coécrit le film, impressionne particulièrement par son talent à la fois brut et discret. Est-ce que c'est la révélation du film ? Ça c'est ma question du coup, qui se rajoute à la fin.
Oui, alors, bien sûr que Julie est formidable, c'est une immense comédienne, mais Julie sans groupe, il n'y a pas de Julie. C'est-à-dire que tous les comédiens sont vraiment immenses. Réussir à... Le rêve d'un comédien, c'est qu'à un moment donné, on ne se rende pas compte qu'il est en train de jouer. C'est-à-dire qu'il y a une totale incarnation, en fait, de tous les comédiens. Et oui, bien sûr, Julie, c'est le rôle principal, donc c'est celle qui est en train de sortir, et je lui souhaite à Julie de surfer sur ce regard que les gens portent sur elle aujourd'hui, et puis qui lui donne surtout d'autres rôles aussi, parce que faut pas qu'on donne à Julie, Julie elle est multifacette, donc mais tous les comédiens sont immenses, vraiment, ouais. je le pense, et cet oubli du jeu, cette incarnation, c'est quelque chose d'extrêmement rare au cinéma.
C'est ce que disent de nombreuses critiques. Hein. Ouais. J'ai fait une petite sélection de trois critiques selon, mais c'est vrai que le rôle des comédiens, enfin le bon jeu des comédiens, c'est quelque chose qui est salué par l'ensemble de la critique.
Je peux rajouter un truc
bien
sur Julie.
Sûr. C'est le moment, justement.
Julie, c'est une rencontre formidable déjà, et c'est une partenaire incroyable. Voilà, ça a été une partenaire généreuse, mais comme tout le monde, hein, c'est vrai que ce que disait Fabienne, enfin, en tout cas, tous les comédiens et les comédiennes, c'est incroyable. C'est-à-dire que c'est un bonheur. Moi, j'avais 18 ans, j'en ai 35 maintenant. J'en ai vu, j'en ai rencontré en casting. Et sur ce film, j'ai rencontré des gens, des personnes extraordinaires. Et Julie, elle en fait partie, et elle mérite. Et voilà, mais tout le monde, enfin, dans ce film, c'est incroyable. Moi, comme comédien, j'ai pris un plaisir immense à vivre ces moments-là, parce que c'est même plus jouer, c'est à vivre ces moments-là avec ces personnes.
C'est le moment où on arrive au souvenir qu'on vous a demandé de ramener, et donc c'est Cédric Marouani qui s'y est collé. Oui. Vous avez ramené un vêtement, vous aviez peur d'avoir froid dans le studio, c'est chaud. Hein, c'est...
ce vêtement, c'est une veste. Et en fait, ça me
rappelle... Une veste bleue de survêtement, voilà pour ceux qui ne
pour
donner les images
pour
à la radio.
Ceux qui ne sont pas dans le studio,
voilà. Sachant que vous pouvez tous voir à quoi ressemble cette veste, puisqu'on l'a mise en photo sur la page Facebook de Studio B.
Et en fait, les vêtements, ils ont été hyper importants, en tout cas pour moi, parce que on les a choisis. Donc, on a fait une demi-journée d'essayage de costumes. Et en fait, cette veste-là, je me sentais hyper bien dedans. Et le costume dans ce film, je sais pas, on n'avait pas 20 000, mais à chaque fois, on essayait les costumes, et puis on avait chacun, c'était hyper drôle. Le moment où on se retrouvait dans la loge costume pour essayer nos vêtements, c'était un moment où on échangeait, on partageait aussi. Donc c'est, voilà, il y a cette symbolique-là. Et aussi, j'ai racheté ce costume, j'ai racheté cette veste, parce que à la personne qui s'occupait des costumes, parce que aussi tous les vêtements qu'on pouvait racheter, l'argent allait à une association que cette personne s'occupait, et voilà, c'était important pour moi et j'avais envie de la ramener à la maison, et je la porte souvent chez moi.
Ah oui, vous la portez encore aujourd'hui?
Ouais, je la porte, j'aime bien.
C'est étonnant, ça, de devoir racheter son costume.
Oui, c'est original.
Alors ça se fait beaucoup sur les tournages, c'est pas des trucs qu'on dit forcément, mais là, comme ça, en plus, ça allait dans une association. Je trouvais ça bien, et je crois qu'on en a acheté pas mal. Enfin,
et puis si ça va dans une association, c'est
encore mieux.
C'est encore plus sympa que si ça va dans le budget de la production.
Oui, voilà.
rien que le fait que vous rameniez un vêtement, ça prouve votre implication dans le rôle. Moi, la question que je me pose, c'est comment on ressort d'un tel rôle si puissant? Comment on en sort de ça?
On en ressort... Alors c'est une question qui est hyper, hyper forte, parce que c'est vrai que moi, j'ai eu un peu de mal, sans mentir, hein, j'ai eu un peu de mal de ressortir de ce personnage, parce que Jalil, parce que c'était fort de par l'aventure, et le rôle aussi en lui-même. J'étais pas papa à l'époque, dans le film, je n'étais pas papa, et maintenant je le suis. Et ce film, je crois qu'il restera, quoi qu'il arrive, toute ma vie, une part de ce film en moi, de ce rôle, parce que c'est une aventure extraordinaire, et qu'enfin, il y a des gens qui disent oui, tu peux ressortir d'un rôle. Moi, je crois que même si on en ramène 0,1%, on a toujours une part du rôle en soi. Et moi, ce rôle-là, je le trouve, c'est un cadeau, quoi. Donc,
on est tous sortis. Paradoxalement, en état de manque.
Ouais, c'est
ça. Oui, c'est ça.
Moi, j'étais vraiment en manque.
C'est un comble pour un film sur
l'édition. J'étais vraiment en manque. J'ai tourné 3 semaines. Et une semaine, je suis rentré à Paris. Et la semaine où je suis rentré à Paris, j'étais en manque. C'est-à-dire que j'envoyais des messages à tous les copains qui étaient sur le tournage, leur dire qu'est-ce que vous faites, vous tournez quoi.
C'est le syndrome de la colonie de vacances.
Mais c'est ça, on était en colonie.
Et, non,
et quand je suis rentré, j'avais plus qu'un jour de tournage et je suis resté. Je voulais faire la fête avec eux. Et j'avais plus envie de partir, quoi. Donc ce rôle, il est unique.
Oui, il restera, quoi qu'il arrive. On parlait de Julie Moulier tout à l'heure, qui incarne donc Margot, le personnage principal. Pourquoi avoir choisi de faire émerger un personnage principal ? Pourquoi ne pas avoir fait un film sur le groupe ? Là, c'est vraiment elle qui rythme le film, ce sont ses journées qui rythment le film. Pourquoi avoir voulu faire un focus sur une personne ?
C'était pas tant le focus sur une personne, mais sur une trajectoire. Qu'est-ce que c'est que de rentrer ? Quelles sont les étapes, en fait ? Et ça me semblait en tout cas plus lisible si je suivais quelqu'un, et tout en faisant place donc, à tous les autres personnages, d'avancer avec elle, et donc de voir la progression. Comment, de la difficulté qu'elle a au départ d'entrer, d'accepter, en fait, justement, cette main tendue, elle va, à la fin du film, choisir... Elle va choisir sa famille, c'est-à-dire qu'une famille d'adoption, de frères et de sœurs d'âme, plus que sa famille, en fait, biologique. Donc, c'était plus facile, ouais, de suivre un parcours, de voir la progression, comment, au départ, elle est complètement fermée, et puis elle va prendre un peu la parole, elle va s'ouvrir. Ça aurait été plus difficile, je pense, pour celui qui regarde le film, d'éclater, en fait, ses parcours, et de se dire... Ah oui, lui il est au début du séjour, lui il est à la fin. On le sent dans le film pour tous les autres. Mais ça aurait été, à mon avis, plus difficilement lisible.
Mais elle guide le spectateur.
Elle guide le spectateur dans le chemin que chaque personne fait quand il rentre dans cette communauté.
On parle donc d'un thème un peu compliqué, voilà, l'addiction, essayer de s'en sortir, des gens hypersensibles, comme on disait, qui ont un peu du mal à vivre. Finalement, il y a aussi ce personnage qui est très jeune et qui n'arrive pas à vivre, qui dit, voilà, en fait, il n'y a rien de spécial, j'ai pas forcément de drame dans ma vie, mais j'ai du mal à vivre, donc je bois, je prends de la drogue. Et pourtant, comme on disait, dans ce film, il y a une grande joie et il y a une grande force de vie. D'ailleurs, le film s'appelle « Nos vies formidables ». Pourquoi avoir choisi ce titre, justement ? Il vous est venu tout de suite ?
Non, il ne m'est pas venu tout de suite, mais j'avais envie d'abord d'un titre qui soit lumineux. Parce que le film, c'est pas un film justement sur l'addiction. C'est un film sur des gens qui ont eu ce passé et qui, à un moment donné, choisissent de se reconstruire. Et dans cette reconstruction, donc dans cette abstinence, en fait... J'ai rencontré des gens formidables, c'est-à-dire des gens d'une intelligence, d'une sensibilité, d'une intuition. Il y a des gens de tout milieu, de toute culture. Donc il y a autant des journalistes que, je sais pas moi, l'agriculteur, que la drogue, les médocs, ça touche vraiment tout le monde. Et débarrassé du produit, on est face à des gens qui sont extraordinaires. Et des gens que je côtoie aujourd'hui, tous ceux que j'ai interviewés sont abstinents, c'est-à-dire que c'est une réussite totale. Et je suis face à des gens que j'aime, donc j'avais envie de leur rendre hommage. Je voulais pas être sur quelque chose de glauque, parce que c'est pas glauque en fait.
Cédric Marvani, c'est la question que vous vouliez qu'on pose. Alors donnez-nous la raison principale d'aller voir ce film.
C'est un film qui parle de lien à l'autre, de lien d'humain, de solidarité, qui donne aussi beaucoup d'espoir à ces gens qui se battent tous les jours pour s'en sortir et qui font ça vraiment merveilleusement. Moi, j'ai un profond respect pour toutes ces personnes, et ce film, c'est un hymne à la joie et au courage, au combat, et c'est important que ce film soit vu parce qu'il a beaucoup de valeurs positives, et c'est un film qui est lumineux. Donc selon moi, c'est...
Eh ben, très bien.
Voilà. C'était bien déterminé par cette question.
C'était voilà. Parfait.
On l'a dit, hein, c'est pas que un film sur l'addiction, c'est le thème, en tout cas, c'est ce qui passe dans le film, et c'est surtout avant tout un film plein d'humanité, de solidarité. Je pense que c'est un bon moyen de résumer ce film. Cédric Marwani, merci. Fabienne Godet, merci. Votre film Nos vies formidables est à l'affiche en ce moment. Vous pouvez le voir dès cet après-midi. Ben voilà, c'est terminé pour aujourd'hui.
Oui, on se retrouve la semaine prochaine.
Exactement. Enfin, c'est fini à la radio, mais on se continue de se retrouver en podcast sur BeurreFM.net. On reste en contact sur la page Facebook de Studio B, également sur le compte Instagram de Studio B. La semaine prochaine, on parlera du film Meltem avec Basile Degagné, Srabait Oufella et Lamine Sissoko. Rendez-vous donc dimanche prochain, 11h midi. D'ici là, n'oubliez pas, le cinéma, c'est mieux au cinéma. Ciao.
Ciao.
Studio B, le magazine ciné de Beurre FM.